Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Juin 1960, 30 juin 2022, exactement 62 ans depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Dans ce journal, le rappel historique de l'événement. Aujourd'hui également, c'est la levée des 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement congolais en mémoire de Lumumba. C'est après des hommages lui rendus depuis Bruxelles, en passant par son village natal, le lieu de son assassinat, jusqu'à Kinshasa. Le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle. Plutôt que comme un groupe armé, il est impératif que le Conseil de sécurité redouble ses efforts en faveur de la paix et du désarmement sans condition du M23, a dit Madame Bintou Keïta. La chef de la MONUSCO s'exprimait ainsi hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, l'invité de ce matin, Paul Nsapu, président de la Ligue des électeurs et défenseur des droits de l'homme, il fait plusieurs annonces sur le processus électoral en RDC, notamment l'accompagnement du processus électoral par l'éducation civique et électorale. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes bien le jeudi 30 juin 2022. Simple coïncidence ou pas, en tout cas, on se rappellera que le 30 juin 1960 fut aussi un jeudi. Ce jour-là, le monde assistait à des scènes de liesse populaire à Léopoldville, capitale de la toute nouvelle République démocratique du Congo, mais également en province. Le pays venait d'arracher son indépendance. À la cité, c'était une ambiance électrique qui contrastait à la solennité de l'événement officiel. Retour sur ce jour mémorable dans ce récit signé Axel Goncho.
Tout commence le matin de ce jeudi 30 juin 1960 par une messe en la cathédrale Sainte-Anne de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Les Congolais nouvellement indépendants entonnent alors en chœur le Te Deum, l'hymne latin d'action de grâce de la liturgie catholique. Vient ensuite la séance solennelle au Palais de la Nation devant le Parlement réuni en congrès. Dans son allocution, le roi Baudouin Ier de Belge va louer l'œuvre des colonisations amorcée par le roi Léopold et poursuivie par la Belgique.
L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique.
Joseph Kasavubu, le tout nouveau président du Congo indépendant, va lui remercier les Belges alors qu'il n'était pas prévu par le protocole. Patrice Emery Lumumba, le premier ministre, prend lui aussi la parole. Il va prononcer un discours fort peu apprécié dans les milieux diplomatiques, mais qui fera date chez les nationalistes africains.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. Ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
5 jours seulement après cet événement, c'est la mutinerie de la force publique. Avant que le nouveau chef de l'État et son premier ministre ne se neutralisent, le Congo vit alors la première d'une longue série de crises institutionnelles que le pays va connaître des décennies durant.
La RDC commémore différemment son accession à la souveraineté nationale et internationale ce 30 juin. Patrice Emery Lumumba va en ce jour, depuis son assassinat en 1961, reposer désormais dans un lieu lui réservé par la nation à la place Échangeur de Limité à Kinshasa. Ici, il lui est construit un mausolée. C'est aujourd'hui qu'est également levé le deuil national de 3 jours en mémoire du premier ministre congolais et de ses 2 compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito. C'est après des vibrants hommages depuis Bruxelles, Onaloa, dans le Sankuru, Kisangani, Chilatembo et ici à Kinshasa. Billy Vandutumba, reportage.
Cher Patrice, ma situation est singulière. Je suis troublé d'être celui qui occupe votre fauteuil en ce moment précis où vous revenez à la primature. En effet, on succède à Lumumba, mais on ne le remplace pas.
Mercredi 29 juin 2022, au petit soir dans le jardin de la primature, quelques premiers ministres honoraires RD congolais, dont Kengo Badibanga, membres de l'actuel gouvernement et du corps diplomatique sont installés. Sous une fraîcheur provenant du majestueux fleuve Congo, Lumumba est chanté par ses prédécesseurs par d'élogieux témoignages. Mabi Mulumba, Tshibala Nzenza et Samalou Kondé.
Vos autres successeurs, anciens premiers ministres de la République, ont aussi tenu à s'associer à nous pour vous rendre leurs hommages. J'exhorte les membres de mon gouvernement à être à la hauteur de la grandeur de votre esprit, de votre idéologie et de la grandeur du Congo.
Aux côtés des bustes de tous les anciens premiers ministres, c'est un géant monument de Lumumba aux dimensions d'un pionnier qui est élevé dans le jardin de la primature, au pied duquel cette citation du héros national.
Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre.
La fin du deuil national sera marquée tout à l'heure par l'inhumation de la relique de Lumumba à son mausolée à Limete.
Le 30 juin constitue un moment propice à la réflexion quant à la manière dont le pays avance. C'est la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema qui le dit, Gertrude Kitembo, qui s'est exprimée hier en marge de la clôture de la session ordinaire de cet organe délibérant, invite les Congolais à cet exercice. Elle sollicite par ailleurs l'implication du président de la République pour la tenue rapide de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Maniema après l'annulation du dernier scrutin par le Conseil d'État. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Dans son speech faisant allusion à la journée du 30 juin, Gertrude Kitembo invite la population à bien réfléchir sur l'avancement de notre pays 72 ans après son indépendance.
La journée du 30 juin, c'est un moment précieux de réflexion et d'évaluation des 62 ans de gestion de notre pays et de la nouvelle expérience de la décentralisation depuis notre constitution de 2006. C'est aussi une occasion offerte au peuple congolais en général et à la population du Maniema en particulier de profiter, de profiler un nouveau plan de développement de notre pays et de notre province.
De l'autre côté, elle demande l'implication du chef de l'État sur la tenue du nouveau scrutin après annulation des élections de gouverneur du Maniema.
À ce jour, il règne une confusion dans la gestion de la province dont la population s'interroge sur la tenue du nouveau scrutin et sur la suite de la procédure devant les instances judiciaires.
La présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema a félicité ses collègues députés provinciaux pour le travail abattu au cours de cette session. Selon elle, plusieurs matières ont été débattues et versées dans les différentes commissions pour toilettage. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Toujours par rapport à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays, la Gécamines, dans un message adressé au président de la République, lui rassure qu'elle lui donnera tous les moyens de sa politique par un travail productif. Elle s'engage par ailleurs à mettre en place des stratégies qui aideront à relever son niveau de production et à concourir au redressement de l'économie nationale. Ce 62e anniversaire d'indépendance qui sévit dans un contexte hors pair, marqué par la restauration de la paix et de l'intégrité de notre territoire national, nous donne l'occasion d'être davantage à vos côtés pour accompagner votre action ainsi que les mesures que vous ne cessez de prendre en vue de rendre aux Congolais leur identité d'un peuple souverain, bâtisseur, hospitalier et ouvert à tous les horizons, peut-on lire dans ce communiqué signé par Bester Hilaire Ntambwe Ngoy et Alphonse Kaputo Kalubi, respectivement directeur général et président du conseil d'administration de la Gécamines. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est détériorée depuis le mois de mars dernier en raison notamment de l'intensification des attaques du M23 contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus. La déclaration est de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Selon Bintou Keïta qui s'exprimait hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle plutôt que comme un groupe armé disposant d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiqués. Pour elle, il est impératif que le Conseil de sécurité redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23. Pelé Kipela Mondo.
Les offensives du M23 ont un impact majeur sur les civils qu'ils tuent et forcent à fuir, affirme la chef de la MONUSCO. Elle renseigne que plus de 170 000 personnes ont ainsi été déplacées du fait des agissements du M23. Bintou Keïta s'est dit préoccupé par l'entrave à la scolarité des enfants qu'entraîne la situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante, insiste-t-elle. Dans ces contextes sécuritaires difficiles, elle salue la réponse robuste et proactive de la MONUSCO qui, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière des droits humains, a empêché les M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale numéro 2. La numéro 1 de la MONUSCO condamne ensuite ceux qui se livrent à l'aggravation des tensions intercommunautaires au plan régional, se disant à cet égard encouragé par les nombreux appels au calme et autres condamnations provenant des dirigeants congolais, des responsables politiques. politiques et des dirigeants de la société civile. Selon elle, il revient au Conseil de sécurité de soutenir les efforts menés au plan régional pour ramener le calme entre États voisins, une condition d'après elle pour mettre un terme au fléau des groupes armés. J'exhorte la RDC et le Rwanda à saisir l'occasion que représentent les prochains sommets organisés à Luanda par les présidents João Lourenço pour résoudre leurs différends par les dialogues, a-t-elle dit, appelant Kinshasa et Kigali à continuer de tirer pleinement parti des mécanismes sous-régionaux existants, tels que les mécanismes conjoints de vérification élargie. Madame Keïta a également rapporté les attaques des ADF, Codeco ainsi que d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu.
Et puis, c'est aujourd'hui 30 juin que la MONUSCO ferme officiellement sa base à Kalemie et clôture ses activités dans la province du Tanganyika. Pour rappel, c'est depuis le mois d'avril 2001 que la mission onusienne est arrivée à Kalemie dans un contexte sécuritaire difficile. Elle a aidé la population dans les 6 territoires de la province et les différentes sections ont collaboré avec les autorités et institutions provinciales. Le 21 juin dernier à Kalemie, notre journaliste reporter Fulbert Balolagué était sur place pour couvrir la cérémonie de clôture de la présence de la MONUSCO dans cette partie du pays. C'était en présence de nombreuses personnalités. Suivez une partie du dossier qu'il a réalisé à cet effet.
Avant la cérémonie officielle de clôture, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a précisé que le départ de la MONUSCO est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire en province.
Que la MONUSCO se retire du Tanganyika, c'est important de bien expliquer que le retrait de la MONUSCO, qui correspond à une amélioration de la situation sécuritaire dans la province, mais le retrait de la MONUSCO, ce n'est pas un retrait des Nations Unies.
Cela dit, la MONUSCO se retire du Tanganyika en ayant accompli sa mission et avec assurance d'une bonne continuité. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC.
On part d'une façon responsable en sachant que les structures sont là pour continuer à accompagner la province de Tanganyika. Donc moi je dis, oui, mission accomplie, dans le sens où tout n'est pas réglé, loin de là, mais ce qui reste à gérer est gérable avec une continuité d'accompagnement.
La société civile remercie la MONUSCO d'avoir regroupé ses membres en groupes thématiques. Athanas Kitoka de la CDJP Academy est membre de la société civile.
Je peux parler de l'organisation de la société civile. La société civile est plurielle, mais nous nous sommes retrouvés avec la MONUSCO qui nous a appuyés sérieusement à nous regrouper dans les groupes thématiques aujourd'hui. Toutes les organisations qui interviennent dans les droits de l'homme se connaissent et ça nous a permis d'être dans une coordination malgré notre pluralité.
La jeunesse du Tanganyika, reconnaissante du soutien reçu, promet de capitaliser les acquis de la MONUSCO. Maître Ngoï Kitambala, du Conseil provincial de la jeunesse.
Dans le cadre de l'autonomisation des organisations des jeunes, je peux vous assurer que la jeunesse du Tanganyika va capitaliser ses acquis légués par la MONUSCO qui aujourd'hui doit partir tête haute.
Direction le Nord Kivu. Un groupe d'avocats du barreau de Goma sont inquiets pour leur sécurité physique. Ils affirment recevoir des messages de menaces de mort. Ils estiment que cela serait lié à un litige foncier qu'ils défendent à la justice, opposant une femme âgée à des acheteurs qui auraient déjà impliqué certains officiers de l'armée dans le dossier. Bernardin Nyangi nous raconte.
Ces avocats pointent du doigt les clients d'une dame de 83 ans qui n'aurait pas soldé le paiement de la parcelle de celle-ci de 40 mètres sur 17, situé sur l'avenue Pélican au quartier Le Volcan au centre-ville de Goma depuis fin novembre 2021, comme prévu. Alors que la justice aurait déjà tranché en faveur de la dame, la partie adverse utiliserait certains officiers de l'armée pour proférer des menaces, indique l'un de ses avocats, Maître Prosper Kassilengue, ancien bâtonnier du barreau de Goma.
Ils se présentent comme acheteurs, ils ont donné un délai et après ils ont payé des miettes. Lorsqu'ils ont été incapables de payer, ils se font accompagner des militaires de la 34e région militaire pour chasser les gens de l'auditorat supérieur qui avaient mandat d'amener pour incitation des militaires à commettre des faits contraires à leur mission. Nous les avocats, ce monsieur nous a menacé dans un audio pour dire il va nous régler le problème autrement.
Contacté, monsieur Mwanda Elias et son avocat qui sont concernés rejettent toutes ces accusations de menaces et d'implication de militaires. Ils accusent par ailleurs, pour leur part, Maître Kassilengue d'avoir entretenu une vente superposée de la parcelle de la vieille dame en violation des accords, ce qui, selon eux, serait à la base des disputes. En attendant, une tension règne dans cette parcelle au centre-ville de Goma. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mercredi 29 juin, le mandat de la MINUSMA pour un an. Pas de grand changement pour la force de maintien de la paix, mais l'ONU devra publier une étude d'ici janvier pour évaluer la mission et ses besoins. Cela dans le contexte du gouvernement de transition et du départ des forces françaises et européennes. Si Paris a abandonné les vols de réassurance à la MINUSMA, le contentieux de la négociation s'est concentré sur les mentions aux droits de l'homme. L'Égypte projette de fabriquer du pain avec de la patate douce. C'est pour réduire sa dépendance à l'égard du blé importé. Selon le ministre de l'approvisionnement qui a annoncé la nouvelle, la patate sera ajoutée à la farine et permettra de réduire d'un million de tonnes les importations de blé.
L'invité.
Radio Kapi reçoit ce matin le président de la Ligue des électeurs et défenseurs des droits de l'homme, Paul Nsapu. Il fait plusieurs annonces sur le processus électoral en RDC, notamment l'accompagnement du processus électoral par l'éducation civique et électorale, la sensibilisation de la population électrice, l'atelier de mise à niveau des observateurs, le renforcement du cadre de concertation avec la CENI. Paul Nsapu s'entretient avec Jeff Ngoy Mulunda.
Paul Nsapu, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Après une longue accalmie, vous voilà de retour. Peut-on dire que c'est le grand retour de la Ligue des électeurs sur la scène électorale?
Tout à fait. Mais on était toujours présents sur la scène. Malgré la distance, la Ligue a fait son travail dans d'autres axes, notamment l'axe droit de l'homme, l'axe protection des acteurs sociaux et même certaines personnalités du monde politique, et également l'axe, si vous voulez, de plaidoyer pour le bien de la République démocratique du Congo par rapport à d'autres enjeux dans d'autres sphères au niveau international.
Vous venez d'organiser une matinée électorale axée sur l'accompagnement du processus électoral. En quoi se traduit concrètement cet accompagnement?
Oui, cet accompagnement classique, traditionnel. Voilà, on a constaté des hauts et des bas dans tout ce qu'il y a eu comme dispensation électorale passée jusqu'aux dernières élections. Et il y a des ratés, il y a des avancées, il y a des choses qu'il faut améliorer. Voilà pourquoi mon retour coïncide aussi avec le grand retour de la Ligue des électeurs sur cette question, la question électorale, avec des partenaires qui sont connus et qui sont là sur place ici, et même des partenaires institutionnels d'ailleurs, c'est-à-dire du monde extérieur. Et donc c'est une pression, c'est quelque chose qui est demandé. Et nous sommes rentrés pour préparer le peuple congolais à s'assumer en tant que population électrice.
Et comment comptez-vous vous y employer? Comment comptez-vous préparer la population à ces échéances électorales? De quelle manière comptez-vous le faire?
Oui, le programme en soi, c'est l'éducation civique électorale constituée par des campagnes de sensibilisation et des formations de groupes ciblés pour échanger, transférer des compétences, les techniques sur comment on encadre un processus électoral dans toutes ces péripéties, avant, pendant et après les élections. Ça, c'est l'expertise de la Ligue des électeurs, qui est une ONG pionnière dans ce domaine et qui a pratiquement formé tous les ensembles qui existent et des organisations en cette matière, et même ceux de tendance ou bien ceux de confession religieuse, comme l'histoire de la Ligue peut vous l'indiquez. Et donc, nous ferons cela sur l'ensemble du territoire national. Et après ce que j'ai annoncé à cette conférence, un atelier national de mise au point, d'évaluation, de préparatifs, si vous voulez, des élections, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs des élections, j'ai cité la CENI.
Est-ce que la Ligue des électeurs a déjà préparé aussi la formation de ses observateurs à déployer lors des élections? Comment ça va se passer?
Mais ils existent pas moins de 50 000,
observateurs
sur l'ensemble du territoire national, et c'est même plus que ça. Et ce sont ces gens-là, ils ne sont pas tous morts. La plupart, ils sont vivants, ils sont là, ils sont dans les 26 provinces. Lors des formations qui vont suivre, de mise à niveau et autres, on va recourir à eux. Donc, les ressources humaines sont là, des gens avertis sur la question, avisés sur la question électorale. Et ça sera très facile. Bon, et puis, nous allons former d'autres. Il y a beaucoup de demandes nous sommes là. Et même le média, qui nous ont approchés, ils ont besoin de cette réactualisation pour préparer le peuple. Donc c'est notre tâche à nous tous. Je profite de votre micro pour dire que d'ici là, nous allons demander aux anciens observateurs formés de réactualiser notre fiche d'enregistrement et tout, puisque nous avons besoin de tout le monde. Et voilà, et d'ici là, on passera chez vous aussi pour nous aider à amplifier cet appel, cet écho, pour que tout le monde se mette en ordre utile.
La CENI peut compter sur l'accompagnement de la Ligue des électeurs.
Tout à fait. Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le président de la Ligue des électeurs et défenseurs de droits de l'homme, Paul Nsapu, au centre ethnique avec Jeff Ngoy Mulonda. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, à la mise en onde Polydor Basunga. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.